Étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, toi Jésus. Te connais. Il n'y a rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice.
Bonsoir bien-aimés en Christ et merci pour votre fidélité à cette émission. Dans ce nouveau numéro, le chant qui retiendra notre attention tout au long de cette émission nous vient de la famille Harbour. Le chant n'est pas très connu des auditeurs. Il est constitué de 3 couplets et d'un refrain et le titre de la chanson est « Quand tu l'auras décidé » que je vous invite dès à présent à écouter. La famille Harbour. La famille Harbour est ce jour invité dans cette émission, c'est elle qui nous propose le chant que nous aurons à étudier. Vous le savez d'habitude dans cette émission, quand nous venons, nous prenons un chant, une chanson ou un cantique et nous essayons de le commenter à la lumière de la parole de Dieu. Mais avant d'en arriver là, avec l'autre Laurent, on va vous donner lecture des paroles de ce chant avec l'autre Laurent. L'autre Laurent, bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment vas-tu?
Oui, ça va.
Ok, nous avons écouté tout à l'heure la chanson, quand tu l'auras décidé, j'aurais bien voulu que tu nous donnes lecture des paroles de la chanson.
D'accord. Premier couplet, quand viendra la fin du pèlerinage que Dieu m'avait assigné, le bon combat jusqu'au bout du voyage, la foi en toi je garderai. Deuxième couplet, avec les années s'additionne mon âge, à toi je demeure attaché, même si les gens n'aiment pas mon langage, toujours je veux te louer. Troisième couplet, je suis serviteur du plus grand des maîtres, fidèle je veux rester, d'ici le jour de la grande fête, ton salut j'annoncerai. Le refrain dit ceci: quand tu l'auras décidé, vers toi Jésus, j'irai. Ma place sera préparée près de toi, ô bien-aimé.
Laurent, tout à l'heure, tu nous as donné lecture des paroles de la chanson. Et en commençant avec le tout premier couplet, je voudrais savoir qu'est-ce qui est dit concrètement dans le premier couplet.
Le premier couplet nous parle du parcours et de la fin de vie du disciple de Christ. Et c'est comme, bon, si d'une manière générale, Dieu nous donne la vie, et cette vie s'étend de la naissance à la mort physique. C'est le propre de tout être humain qui vient dans ce monde. Donc, dès la sortie du sein maternel, après 9 mois, bien entendu, de gestation, ça c'est d'une manière générale, certains font plus de neuf mois. Puis, dès ce moment, du berceau jusqu'au tombeau, il y a une sorte de déroulé du plan et de la volonté de Dieu dans la vie de la personne qui vient au monde. Maintenant, ce plan et cette volonté de Dieu peut être altéré, peut être retardé, et ça peut être, dans plusieurs cas, toujours d'une manière générale, peut être détruit par la volonté de l'homme lui-même, ou des puissances des ténèbres, ou de leurs agents humains. Et là, en Afrique, on s'y connaît dans ce domaine où les gens ont très tôt compris qu'on peut manipuler de loin la destinée d'un être éternel et d'un être humain. D'accord? Donc, comme dit l'Écriture, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Maintenant, ce que l'on fait entre la naissance et la mort va déterminer où l'on ira, là où le temps n'existe pas. C'est vrai que quand on lit l'Écriture, il y a des exceptions à cette règle. Première exception, Noé n'a pas connu la mort. Deuxième exception, Élie n'a pas connu la mort. Maintenant, comme la Bible dit, sur la déposition de 2 ou 3 témoins, la vérité sera établie. On a déjà trouvé 2. La troisième exception, elle aura lieu dans un avenir proche. C'est l'Église. L'Église sera enlevée de la terre. Et ceux qui auront participé dans un pan, quand on subdivise en 2 ce groupe, d'abord les morts en Christ qui entre-temps reprendront leur corps mortel pour revêtir l'immortalité, ceux qui vivraient au moment de l'enlèvement vivraient l'expérience de ce qui est arrivé à
Élie et à...
Voilà, donc là, autre chose que l'on comprend, c'est que Dieu seul connaît le début et la fin de notre existence. D'accord? Il a dit dans Jérémie 1, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc, lorsque l'homme et la femme entrent en contact, d'un point de vue scientifique, on peut expliquer comment les spermatozoïdes vont féconder l'ovule, tout ça, ça s'explique. Ce que la science ne peut pas expliquer, là où l'esprit et l'âme interviennent. La science, elle est muette à ce niveau. D'accord? Donc là, Dieu est en train de dire, même la formation du fœtus est le propre de Dieu. Et il dit, je te connaissais avant que tu fusses sorti, après le 9 mois, avant que tu fusses sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Là, ce texte nous dit que l'appel de Dieu, cet appel-là, nous précède avant que nous ne venions au monde. Ce n'est pas par la force des choses ou quelqu'un ou groupe de personnes qu'on reçoit un appel. L'appel vient de Dieu. C'est la décision souveraine de Dieu. David, un homme rempli de Saint-Esprit, savait ces choses. Psaume 31, verset 15, il dit, « Mes destinées sont dans ta main. » Ça veut dire que David savait qu'il n'est pas dans ce monde par le fait du hasard, qu'il y a un début de vie, une fin de vie, mais tout ce qui va se dérouler dans ces parenthèses, c'est le propre de Dieu. Donc, il revient à l'homme de collaborer avec son Dieu pour pouvoir finir comme cela se doit. Psaume 39, verset 4 dit, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. » Donc tu vois,
ça c'est David qui parle.
C'est David qui parle. Ça veut dire que là, il prend conscience qu'il est un être mortel. C'est de la pure folie pour quelqu'un de croire qu'il est immortel. Et souvent, ces gens posent des actes comme si leur souffle leur appartient. Mais ici, David est en train de dire, je veux savoir combien de temps il me reste. Parce que ce n'est pas dans son jeune âge qu'il a posé cette question. D'accord? Combien de temps il me reste? Et là, autre chose, donne-moi afin que je comprenne qu'en réalité, je suis un être fragile. L'homme par lui-même est fragile. Et dans Psaume 139, toujours le même David, il n'a pas été à l'école de quoi, de science de tel ou de tel, mais David dit, c'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Tu vois ça, Dieu lui l'avait dit à Jérémie. Et ici, David lui reconnaît ce que Dieu avait dit à Jérémie. Or, n'oubliez pas, dans la chronologie des faits, David a précédé Jérémie. D'accord? David a vécu avant Jérémie. Et là, il dit, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Nous avons tous, d'un point de vue physique, notre naissance, notre existence en Adam. Adam a été tissé dans les profondeurs de la terre. C'est de là qu'Adam est venu. Et après, maintenant, nous sortons d'Adam. C'est pour cela qu'après, le corps retourne à la poussière. Et il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Là, par cela, on comprend clairement qu'il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Mais ce n'est pas le fait du hasard. Dieu sait quand l'entrée se produira, nous sortons du sein maternel, quand se fera la sortie. Mais nous, nous sommes dans le noir. D'accord? Donc, si tu t'intéresses aux Écritures, tu vas voir que Moïse, quand il a écrit le psaume 90, c'était dans le désert. D'accord? Moïse n'a pas été sur la terre promise. Psaume de Moïse, c'est dans le désert. Et quand Moïse a dit, tous nos jours disparaissaient par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Il faut juste faire une analyse là pour voir que des adultes qui étaient sortis de l'Égypte, plusieurs d'entre eux s'étaient révélés contre Dieu. Un adulte a 32 ans, n'est-ce pas? Bon, si nous prenons 30 ans pour un cas et 40 ans pour l'autre, quand ils ont fait 40 ans dans le désert, pour les 30 ans, tu ajoutes, ça fait 70. D'accord? Et pour celui qui avait 40 ans, ça fait 80. Donc ça, c'est la conclusion de Moïse. C'est pour cela qu'il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Cette pensée rejette ce que David a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Si vous lisez bien les Écritures, vous comprendrez que Dieu ne vous ajoute pas une année, mais il soustrait. Quand vous fêtez votre anniversaire, c'est une année qui vient d'être soustraite du nombre d'années qui vous reste à vivre. Si vous le savez de cette façon, le jour de votre anniversaire, vous n'allez pas vous livrer à du n'importe quoi, comme quoi vous êtes en train de fêter votre anniversaire. Dieu n'ajoute pas. Il faut bien étudier les Écritures pour comprendre. Puisque de tout ce que nous avons lu jusqu'à maintenant, il y a un temps déterminé, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas voir qu'immédiatement après le psaume 90, vient le psaume 91. Pourquoi? Dans le psaume 90, Moïse est en train de parler des pécheurs, des enfants d'Israël qui vivaient dans du n'importe quoi. Moïse a marché avec Dieu, il a fini à 120. Quand tu prends Josué, ainsi de suite. Tu vois un peu. Maintenant, dans le psaume 91 maintenant, le lien qu'il faut établir là-bas, c'est que à partir du verset 1, il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est un saint, ça, c'est un croyant. D'accord? Maintenant, du verset 2 jusqu'au verset 13, on va parler maintenant des difficultés qu'il va avoir, les attaques de l'ennemi, tout et tout et tout et tout. Et là, on peut se dire, mais comment est-ce que ces gens-là pouvaient savoir qu'il y a ces réalités spirituelles? Dans le verset 14, maintenant, il dit, puisqu'il m'aime, puisque ce saint-là qui demeure sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, puisqu'il m'aime, qu'est-ce que je vais faire? Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Aujourd'hui, nous aimons qui? Nous aimons Jésus. Nous connaissons quel nom? Nous connaissons le nom de Jésus. Et qui aime Jésus et qui connaît le nom de Jésus, aime le Père et connaît le nom du Père. Donc là, il dit, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai. Et il dit, je le rassasirai de longs jours. Tu vois maintenant, de longs jours, ça veut dire que pour les 70 et 80, 70, 80, c'est comme le début pour le croyant. À moins que Dieu ait décidé autrement. Donc, c'est important de comprendre pour nous autres croyants qu'il y a un temps pour naître et un temps pour finir. Mais ce temps qui nous a été départis ou impartis par Dieu, nous devons saisir l'occasion et vivre de manière à honorer Dieu. Donc c'est là l'idée de l'auteur ici qui est dit, quand viendra la fin du pèlerinage. D'accord? Tous les saints savent que c'est un pèlerinage. Un pèlerinage, c'est un lieu où on visite et puis on s'en va, n'est-ce pas? Donc c'est un parcours, c'est comme vous allez dans un hôtel, on ne vit pas dans un hôtel. C'est pourquoi on parle de séjour. Vous allez là-bas quelque temps, vous partez, vous allez ramasser vos choses et vous allez repartir. Frères et sœurs, nous sommes là juste pour un temps. Donc si quelqu'un prie pour avoir 200 ans, 300 ans, libre à lui. D'accord? Mais il faut comprendre qu'il y a un temps déterminé par Dieu. Vivre selon le temps qui nous a été imparti, d'accord. Maintenant, comme je l'ai introduit, nous-mêmes par notre vie, nous pouvons altérer ce temps, nous pouvons retarder l'accomplissement du plan de Dieu, et nous pouvons même, en vivant n'importe comment, même détruire le plan de Dieu pour notre vie. Donc c'est important, l'auteur ici est conscient de ce pourquoi il est là. Quand vers la fin il dit le bon combat, vous vous souvenez de Paul qui dit il a combattu, il a gardé la foi. Donc gardez cela en idée, quand on va aller un peu plus loin, ça deviendra davantage plus clair pour vous.
Très bien, c'est déjà clair, hein, c'est déjà clair par rapport à ce que tu as dit. Nous sommes appelés à vivre pour un temps sur cette terre, nous sommes des pèlerins sur cette terre, mm-hmm. on est en séjour sur cette terre, mm-hmm. et nous allons continuer avec le chant en réécoutant la chanson, s'il vous plaît, jusqu'à un certain niveau. Nous allons maintenant attaquer le refrain, aborder la partie refrain de la chanson, l'autre Laurent, en lisant les vers du refrain, je vais les lire. Quand tu l'auras décidé, vers toi Jésus j'irai, ma place sera préparée près de toi, ô bien-aimé. Un certain nombre de questions me viennent à l'esprit, je vais te la poser une à une. Qui décide?
C'est le Seigneur qui décide.
Il décide de nous rappeler.
Il décide de la fin du parcours de son disciple. Mmh. Le Père décide de la fin du parcours de son enfant. Mmh. Donc c'est de cette façon-là. Et là, il faut le comprendre, c'est une décision souveraine de Dieu. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent déterminer cette décision.
Comme lesquels?
Par exemple... lorsque le Seigneur, dans sa préscience, voit par devant que son fils ne tiendra plus, il préfère le prendre à lui. Sa fille ne pourra plus tenir dans l'épreuve ou les grandes tentations qui sont devant, il préfère le prendre à lui. Et là, quand il veut le faire, il ne demandera l'avis de personne, parce qu'il est le souverain. C'est pour cela que lorsque nous décidons de faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, nous devons comprendre, Paul, lui, l'a compris, à la vie ou à la mort, nous sommes au Seigneur. C'est lui qui décide. Et quand je prends par exemple Ésaïe 57, il est dit ceci, le juste périt et personne ne le prend à cœur. Et les hommes de bonté sont recueillis sans que personne comprenne que le juste est recueilli de devant le mal. D'accord? Donc, la personne va partir. Là, si on plonge davantage nos regards dans les Écritures, Enoch est parti avant le déluge. D'accord? Élie est parti avant la déportation des Juifs. Jésus est parti avant la destruction de Jérusalem et la dispersion du peuple d'Israël aux quatre coins du monde. Étienne est parti avant la persécution et la dispersion des disciples aux quatre coins du monde. L'Église partira avant la tribulation. D'accord? Donc là, Quand le Seigneur dit à Pierre, par exemple, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et tu auras un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Par l'intelligence spirituelle, les disciples ont compris que le Seigneur disait cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela que quand on l'avait arrêté, il n'était pas vieux en ce moment. Quand Hérode l'avait arrêté, voulait le tuer, le gars dormait entre les soldats. D'accord? Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Et c'est Hérode qui est plutôt parti. Maintenant, quand on lit 2 Pierre chapitre 1, verset 13, il dit, « Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. » Donc, il se réfère à son corps. D'accord? Il vit, nous vivons dans le corps. Lorsque je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement. Ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Donc, il sait comment il partirait. Et là, le Seigneur lui a dit, tu vas partir subitement. D'accord? Et Paul aussi va dire plein de choses, mais à la fin, il dira, je sers déjà de libation. Ah, donc, c'est le Seigneur qui décide. D'accord? C'est le Seigneur qui décide quand nous allons quitter et pourquoi nous allons quitter. Là, cet aspect de la question lui est réservé. Il est le souverain. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul va dire à partir du verset 8, « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. » Quitter ce corps. Tu vois, chaque fois que les saints de la Bible parlent, ils sont conscients qu'ils sont un esprit. Et ils ont une âme. Et ils vivent dans le corps. C'est quand l'homme perd de vue cette réalité qu'on prend son temps à embellir le corps, à accorder tellement d'importance au corps, au point d'oublier que la vraie personne même est à l'intérieur du corps. Et il dit, et demeurez auprès du Seigneur, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Cette portion de phrase-là parle de la sainteté. Si tu sais qu'un jour tu vas quitter pour être auprès du Seigneur, tu vas vivre dans la pureté. Tu vas vivre dans la sainteté, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Alors, aux Philippiens maintenant, l'apôtre Paul va dire, Philippiens 1, 23, « Je suis pressé des deux côtés. Je suis dans un dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être auprès de Christ. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Qui ne voudrait pas partir être auprès du Seigneur ?» Si vous avez une fois reçu la révélation, une fraction de seconde de ce que le Seigneur nous réserve ou bien vous réserve, Vous voudrez quitter immédiatement. Parce que ceux qui n'ont rien reçu, c'est eux qui s'accrochent bec et ongle aux choses de ce monde. Et il dit, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. C'est-à-dire, en tant qu'apôtre, il va demeurer pour pouvoir édifier les frères et sœurs. Donc, c'est comme cela. Quand vous prenez l'exemple d'Ézéchias, on le dit, mais mets de l'ordre dans ta maison, tu vas mourir. Il a commencé par pleurer. D'accord? Parce qu'il n'a jamais vu ce qu'il y a de l'autre côté. Et il a pleuré. Dieu lui a accordé 15 années de plus. Ça, c'est encore une preuve que c'était une sorte de bonus qu'on lui a donné. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, avant de dire non, je vais prier pour avoir 15 années, la question que les 15 années, il les a dépensées comment? Il a vécu comment? Au cours de cette 15 années-là, il a attiré le jugement de Dieu sur sa vie. Il a fait venir les ennemis du peuple d'Israël au nom du protocole d'État, leur a montré l'arsenal d'Israël, tout et tout, et on dit, voilà, ce que tu viens de faire là aura des répercussions sur la vie de ton peuple et de tes enfants. Donc vous voyez, pour nous autres en tant qu'êtres humains, surtout en tant que chrétiens ou chrétiennes, n'oublions pas, à moins que nous ne comprenions pas pourquoi nous avons décidé de devenir chrétiens. Nous lui appartenons. Quand ce temps arrive, hein, que vous soyez marié ou quoi, ou en plein processus de mariage, fiançailles, tout ça là, si le Seigneur décide de prendre votre fiancé, il partira. Vous ne pourrez rien faire.
Okay.
D'accord? Donc, c'est des choses comme ça que l'Église primitive savait. Ces gens savaient que leur vie dépendait de la décision du Seigneur.
Ouais.
Et si vous avez cela en vous, vous allez passer votre vie à vivre dans la crainte de Dieu. Ouais. Et dans la pureté.
Très bien. Mmh. J'avais une deuxième question. Je crois que tu as déjà répondu à la deuxième question. Mmh. Quelle décision prend-il, hein?
Oui. Dans le texte, l'auteur lui dit, vers toi, Jésus, j'irai. Tu vois? Donc, quand la décision est dit, mais quand tu auras décidé, je ne je ne résisterai pas.
Je ne ferai pas comme Ézéchias.
Non, je ne ferai pas ça. Je m'en irai. Tu vois, même chose pour l'apôtre Paul. Quand il a connu qu'on l'allait l'arrêter à Jérusalem, tout, il dit non, je suis prêt. Je suis prêt à mourir pour le nom du Seigneur. C'est ce qui fait que quand vous prenez le Nouveau Testament et vous comparez le type de christianisme que nous pratiquons aujourd'hui, quels que soient les titres pompeux que les gens ont là, quand on les met côte à côte avec les saints du Nouveau Testament, nous-mêmes là, pour être sincères, on sait qu'on n'est pas, là au niveau de ces gens-là. On n'avait pas cette qualité de vie. Il y a tellement de choses qui se passent, on se demande si on est vraiment chrétien. Donc, ces gens savaient. Ces gens savaient. Si aujourd'hui, le Seigneur vient dire à un frère, « Ok, mon fils, je te prends, non, esprit de mort, je te chasse. » Parce qu'on lui a dit que tout ce qui est contraire là, ça vient du diable. Au point même que Jésus n'est plus le Seigneur de la vie de plusieurs personnes. Ils le connaissent comme sauveur, ils s'arrêtent à ce niveau, ils ne veulent pas aller loin avec lui. C'est pour cela qu'il y a très peu de disciples aujourd'hui. Il y a plein de gens qui sont dans les congrégations, mais ils ne sont pas disciples de Christ. Leur vie, à travers les épreuves, ce qui sort de leur bouche. Vous avez pas entendu des témoins? Moi, j'en entends. Non loin de moi, j'entends une église là où les gens, chaque fois, ils donnent leur témoignage. Ceci est en train de m'arriver et j'ai dit à Dieu, ah, s'il ne m'exauce pas, moi, je veux partir. Moi, je vais, donc il n'est plus Dieu. Quand tu fais une prière en disant, si Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Il n'y a pas un si à mettre là-bas. L'Éternel est sur son trône. Tu n'as pas conditionné son existence par ton incrédulité. Non, ah, si l'Éternel est Dieu, et s'il est encore sur le trône, et ceci, c'est la prière des gens qui ne savent pas qui Dieu est.
Dieu est Dieu.
Il existe par lui-même.
D'accord.
Et il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Qui tu es toi, une créature là, de moindre chose là, de venir dire si Dieu est Dieu. Soumets-toi. Quand on traverse une preuve, on se soumet à la volonté de Dieu. Quand on fait face à l'adversité, on s'appuie sur les promesses de Dieu pour contrer les avancées de l'ennemi. Les plaintes, l'apitoiement sur soi, c'est pas une preuve d'humilité ni de foi en Christ. Il faut arriver à distinguer l'adversité, la tentation et l'épreuve, l'attaque, pour savoir ce qu'il faut faire. Ceux qui ont voix au chapitre aujourd'hui, c'est eux qui doivent normalement instruire les chrétiens pour qu'ils comprennent ce dans quoi ils sont impliqués. Il ne faut pas que les gens vivent comme si c'est du biberon qu'on doit leur donner à chaque fois. Il faut aider les saints à grandir, à quitter le biberon, à commencer par prendre des aliments solides dans la foi et pouvoir tenir par eux-mêmes. Mais si devant chaque épreuve, il faut faire appel au pasteur, devant chaque tentation, il faut appel au pasteur, on est en train de faire quoi? L'église n'est pas une maternité. C'est un camp où on forme les gens qui vont livrer le combat de la foi.
Très bien. Autre question par rapport à ce refrain, quelle est la réaction ou la conviction de celui qui subit la paix, qui subit la décision?
Oui, mais il sait, il se dit que ma place est préparée.
Il est sûr qu'il
est sûr qu'il va partir.
Il a la conviction qu'il qu'il verra le ciel.
Oui,
qu'il verra auprès du Seigneur.
Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit humain régénéré que nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi quand dans notre marche avec Dieu, il y a des événements qui surviennent qui n'honorent pas Dieu, l'Esprit agira pour mettre la pression sur nous, pour qu'on abandonne cette façon de vivre et revenir dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Et quand on marche de cette façon, la conviction, elle est là. Elle est plus profonde, elle est plus inébranlable que la conviction que vous avez de savoir que vous êtes un homme ou vous êtes une femme. Donc ici, l'auteur sait. Il sait là où il va aller. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je vais vous préparer une place. D'accord? Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai. Donc, à l'enlèvement, il prendra l'église. Mais avant ce temps, s'il ne vient pas maintenant, peut-être que pendant que nous sommes en train de parler, un frère quelque part dans le monde vient de quitter pour la gloire. Une sœur quelque part dans le monde vient de quitter pour la gloire. Ça veut dire que leur parcours est terminé. Ils sont arrivés au terminus où le Seigneur a décidé de les prendre en vue du mal qui est par devant. Et là, quand ces gens, quand leurs yeux s'ouvrent sur les réalités éternelles, personne ne leur dira que voilà le verset que tu lisais là, c'est ça. Ils sauront par eux-mêmes. Donc avant ce temps, s'ils te donnent la grâce d'avoir des aperçus de l'autre monde, tu te réjouiras d'avoir choisi de marcher avec Jésus. Tu te réjouiras de subir ce que tu subis parce que tu t'es identifié à Christ.
Très bien. Ma place sera préparée près de toi, ô bien-aimé. Ça, il a la conviction qui va retrouver le Seigneur au ciel. Et il appelle même « Oh, bien-aimé ». Il appelle « bien-aimé hein? ».
Bien sûr. Parce que Jésus est le bien-aimé de Dieu.
Ok. Très bien. On va continuer et on va réécouter le chant jusqu'au deuxième couplet pour passer au commentaire. Avec les années s'additionne mon âge, à toi je demeure attaché. Même si les gens n'aiment pas mon langage, toujours je veux te louer. Mmh. À la lecture de cette strophe, deux idées essentielles se dégagent.
Okay.
Quelles sont ces idées-là, l'autre Laurent?
Bon, ici, vous avez d'abord l'attachement du disciple du Seigneur. L'attachement du disciple au Seigneur, d'accord? Il s'attache au Seigneur au fil des années. Quand la véritable conversion se produit dans la vie d'un être humain, la véritable conversion, quand elle se produit, ce n'est pas quelque chose de saisonnier, de temporaire ou de circonstanciel, ou voilà, bon, selon que le vent souffle dans la bonne direction, on est chrétien. Quand on n'a plus le vent en poupe, en ce moment, on devient, on choisit de démissionner, ou on trouve des raisons pour marcher sur la pointe des pieds furtivement, retourner à ce qu'on avait vomi. Non, non. Ici, l'auteur est en train de dire, avec les années, s'additionne mon âge. Ça, c'est le processus normal de la vie. D'accord? On prend de l'âge. D'accord? Mais il y a aussi des gens qui prennent de l'âge, mais qui ne grandissent pas. Donc, quelqu'un peut prendre de l'âge naturellement, ou passer des années dans l'église, sans avoir grandi d'un centimètre en Christ. C'est là où plusieurs sont confus. Ils pensent que le nombre d'années qu'on a fait dans l'œuvre de Dieu, ou dans la maison de Dieu, ou dans l'église, ou le nombre d'années qu'on a eu à tenir des Bibles, fait de nous des gens mûrs en Christ. Non. Ce processus est intérieur d'abord. C'est le processus de transformation du disciple en l'image de son Seigneur. C'est là où on voit le fruit de l'esprit devenir manifeste dans la vie de la personne. Maintenant, quand il dit, même si les gens n'aiment pas mon langage, je vais toujours je vais te louer. Ça, c'est la détermination du disciple à continuer dans l'adoration, dans la louange du Seigneur, en dépit des critiques. En dépit des critiques. D'accord?
D'accord. Pourquoi alors a-t-il fait une telle déclaration?
Mais les déclarations sont faites parce que, tu vois, le saint ou le disciple, si vous permettez l'expression, prend plaisir. Au fil des années, le disciple maintenant s'habitue à la nouvelle vie. Il prend plaisir aux exigences de la vie de renoncement à soi. Il comprend par expérience que Jésus a dit, quand il parle de renoncement à soi, de renoncer à ses droits, de port de la croix. Il commence par prendre plaisir à ça. C'est une nouvelle vie. Il se soumet à la seigneurie du Seigneur. Et la vie manifeste de Christ, là, on peut identifier la transformation qui se produit dans la vie d'un tel individu parce que de plus en plus commence à ressembler au Seigneur, non pas sur le plan physique, mais du point de vue du caractère, dans une moindre mesure, bien entendu. D'accord? Donc, le fruit de l'esprit, si cette personne, vous l'avez connue comme étant bouillante, cassant les choses, faisant... Mais vous allez voir, d'un seul coup, la tendresse, la tempérance, tout et tout. Écoutez, quand vous prenez l'image de l'apôtre Paul, de Saul de Tarse, hier, là, il était bouillant pour le judaïsme, il persécutait l'église de Christ, il poussait les disciples à blasphémer, Il joignait son suffrage à celui des autres pour tuer les disciples de Christ. Mais quand vous lisez les Écritures, vous allez voir ce monsieur plus tard, lui qui permettait de donner des coups, d'accord, aux gens, acceptait de recevoir des coups pour le nom de Christ. Vous le verrez plus d'un moment, mais qui pleure en faveur de quelle transformation. Ce monsieur-là, dur. Qui est complètement transformé. Et là, dans 2 Corinthiens, je me permets de lire le chapitre 11, verset 27, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. Donc, vous n'êtes pas le premier à faire de veille de prière. Paul, il dit de nombreuses veilles. D'accord? À la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Verset 28, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et tu te dis, mais lui là, il n'était même pas là. Il ne faisait pas partie du premier groupe des apôtres. Mais comment il a pris sur lui toute la charge des églises? Vous voyez, c'est un véritable apôtre. Quand vous lisez ça là, vous comparez aux fameux apôtres que nous avons aujourd'hui, vous savez que c'est des plaisantins. Ils peuvent pas même souffrir pour Christ. C'est des gens qui se font servir. C'est là où vous voyez la différence. Paul dit, qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. Tu vois un peu la transformation que Christ a produite dans la vie de Saul de Tarse qui est devenu apôtre. Ce n'est pas le titre ici, c'est la vie intérieure. Alors on comprend aisément pourquoi les épîtres de Paul ont une telle portée. Parce que Christ a été manifeste dans sa vie. Il est allé jusqu'à vouloir mourir pour que les Juifs soient sauvés. Romains chapitre 9 verset 1. Je dis la vérité, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Quand on lit ça, là, on se dit, cette personne réellement a été transformée. Et là, quand l'auteur dit maintenant que on ne le comprend pas, n'est-ce pas? Là, dans le couplet qui suit, il dit, oui. Même si les gens n'aiment pas mon langage. Là, vous lisez les épîtres de Paul, vous allez même à un moment donné, les apôtres même ne le comprenaient pas. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dû écrire que il dit des choses selon la sagesse qui lui est donnée. Il y a beaucoup de gens qui tordent le cou des épîtres de Paul. Et là, il est incompris des hommes, comme son Seigneur aussi a été incompris des pharisiens, des scribes et autres. Son langage d'amour face à certaines réalités, il dit non, il faut te venger, il préfère plutôt aller dans le sens de l'amour. Quand il parle des réalités spirituelles, ça irrite les hommes charnels. Et Paul va dire en Corinthiens 4, verset 3, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Je me souviens de Matthieu 5, non? Verset 11, où le Seigneur a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Là, aujourd'hui, là, quand ça se passe dans nos vies, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons à nous venger. Nous trouvons des raisons dans la Bible de trouver des psaumes pour maudire les gens. Et dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Pourquoi? Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ça, c'est les vrais prophètes. En ce qui concerne les faux, Luc 6, 26, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Quand on est disciple de Christ, ne vous attendez pas à être compris. D'accord? Dans ta marche avec Dieu,
Olivier, il y a des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi tu prends une telle décision pour le Seigneur. Ça m'arrive souvent, et je suis maintenant habitué à ça. Il y a plein de gens qui disent des choses. Je suis sur un chemin, j'ai ma croix que je porte. Et je dois aller jusqu'au bout. Toi aussi, tu as ta croix que tu portes. Comment tu es sous la croix, en train d'aller vers le calvaire, et tu prends le temps de regarder quelqu'un d'autre aussi sous sa croix. Et tu veux, mais tu trouves l'occasion même de critiquer. Mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il traverse ça? Ou bien il n'a pas la foi? Ou bien il n'a pas... Frère, nous sommes chacun sous sa croix. À moins que vous n'ayez pas pris votre croix. Moi, j'en ai pris la mienne. Et je sais ce que ça me coûte. Olivier a pris la sienne. Et il sait ce que ça lui coûte. Donc, quand vous savez celui qui vous a appelé et les exigences de l'appel de Dieu dans votre vie, vous n'avez pas de temps pour des enfantillages comme jalousie, médisance, et vous êtes irrité parce que celui-ci prospère. Non, si vous savez qui vous a appelé et vous connaissez le prix que vous avez payé, que vous serez appelé à payer pour répondre à l'appel de Dieu, on n'a pas de temps pour des inutilités de politique d'église. Tu oublies ces choses parce qu'il y a une œuvre qui est en cours en toi. Christ est en train d'être formé en toi. Son caractère devient manifeste en toi. Et il faut que ceux qui t'ont connu puissent un jour dire, elle là, c'est un petit Christ. Lui là, c'est un petit Christ.
Allons dès à présent passer aux commentaires du dernier couplet, du troisième couplet notamment. Il faut le dire, le compositeur se reconnaît, l'autre Laurent, comme étant le serviteur du plus grand des maîtres. C'est ce qu'il dit.
Ouais.
Et pour cela, il prend deux engagements vis-à-vis du Seigneur. Quels sont ces deux engagements?
Le premier, c'est la fidélité. Il dit, fidèle, je veux rester. D'accord? Tu vas rester fidèle, demeurer fidèle.
Parce que sur la voie, il y aura des
difficultés. Oh, bien sûr.
Des difficultés,
il y a des situations, qui vont remettre en cause notre engagement.
Oui. Et ça arrive à tous les chrétiens.
Oh, bien sûr. Bien sûr. je me souviens, quand j'étais hors du pays, au plein temps, j'étais arrivé dans le bureau d'un des responsables. Il a mis là une phrase qui voulait dire ceci
renouvelle chaque jour ta consécration. C'est ça qui nous permet de garder le cap.
C'est pas facile, hein?
Renouvelle chaque jour ta consécration. Parce que des événements vont survenir pour remettre en cause ton appel. Et même tes plus fermes et ferventes décisions. Tu sais, quand on est sous le coup de l'émotion, « Oh Jésus, je t'aime », on fait ceci, on prend des décisions. Même dans certaines chansons, on dit, on chante. Mais quand les défis de la vie vont se présenter à toi, si tu veux t'appuyer sur toi-même là, tu vas flancher, là sur le champ.
Ok.
Voilà pourquoi nous devons renouveler notre engagement. Quand des situations semblent dire que Dieu n'est pas fidèle, il faut refuser d'accepter cet état d'esprit du non. Dieu est digne qu'on lui fasse confiance. Parce que Jésus là, parce qu'il est fidèle, il ne peut pas faillir à sa parole. Donc, il décide de rester fidèle. Ensuite, deuxième engagement, d'annoncer le salut en Jésus. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire son départ de ce monde. Dans 1 Corinthiens chapitre 4.
S'il te plaît,
4,
la manière dont il a dit ici, le deuxième engagement.
Oui, le deuxième. Oui.
Il a dit de manière
imagée. Le jour de la grande fête.
D'ici le jour de la grande fête,
oui,
ton salut j'annoncerai.
Oui, parce que quand on quitte ici, on rentre dans la félicité éternelle.
Okay.
D'accord.
Okay.
Et après la félicité éternelle, ce premier moment que les saints passent, ceux qui nous ont dévancés passent actuellement. Quand l'enlèvement aura lieu, nous irons, nous assisterons, nous participerons aux noces de l'agneau. C'est la grande fête. Donc les privations auxquelles nous sommes sujettes ici et assujettis ici, de l'autre côté, on aura tout le temps pour se réjouir véritablement. Et lorsque, vous savez, quand un homme vous invite à une festivité et autres, là, vous savez comment les choses se passent, n'est-ce pas? On vous présente l'entrée, vous prenez le pas de résistance et tout cela. Vous savez comment ça se passe. Mais quand Dieu lui-même vous invite, et là, en ce moment, il ne vous invite pas comme juste un invité. Vous faites l'objet même de l'invitation. Puisque, arrivé là-bas, nous serons fils et filles de Dieu. Et c'est notre Père qui, au travers du Seigneur Jésus, qui nous accueille, et on va célébrer les noces de l'agneau. Frères et sœurs, de temps en temps, là, si vous choisissez, il y a des types de prières, Seigneur, s'il te plaît, juste un peu, pas beaucoup, juste un peu, ouvre-moi les yeux, juste un peu, pour avoir juste un aperçu de ce qu'il y a de l'autre côté, juste un peu, juste je ne veux pas peu. Beaucoup. Si vous donne ça, va vous pousser à action. Ça va galvaniser votre zèle pour le Seigneur. Parce que vous savez, à des moments donnés, on est tenté de faire l'œuvre en utilisant notre mental. On est tenté par nous-mêmes de prendre des décisions au nom de Dieu. Mais si de temps à autre, là, on a des aperçus, qu'est-ce qui a permis à Paul de continuer sa marche? Il n'en parlait pas. Il avait des révélations. Mais ça le poussait à vouloir tout faire pour que des âmes soient sauvées. C'est quand les Corinthiens l'ont poussé à bout qu'il leur a dit, hey, écoutez, mon titre d'apôtre là, c'est pas juste pour le folklore. Hein. Je vois ce que vous ne voyez pas. Quand j'écris mes épîtres, je vous envoie là. Ce dont je vous parle là, je vous parle d'un point de vue de la réalité spirituelle. C'est pas sur la base de connaissances théologiques. Ici là, c'est connaissances spirituelles. C'est-à-dire des connaissances révélées par l'Esprit de Christ qui habitait en Paul. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, oui, tu peux demander au Seigneur si tu veux, tu lui demandes quoi? Il prend plaisir à donner à ses enfants ce qui est selon sa parole. Parce qu'il a dit, personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. L'Esprit de Dieu est un esprit de révélation. Donc si vous passez 365 jours et vous n'avez aucune révélation venant de Dieu dans sa parole, vous n'avez aucune révélation par l'esprit, ah, frère, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des êtres spirituels. Et l'esprit parle à l'esprit. L'esprit de Dieu parle à notre esprit. D'accord? Sinon, le fait d'aller à l'église va devenir une routine dans votre vie. Les activités religieuses deviendront une routine. Et quand ça devient une routine, on commence pas à faire des choses par nous-mêmes. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Ils étaient arrivés sur la terre promise, physique. Mais ils n'ont pas eu l'intelligence spirituelle d'Abraham, qui, quand bien même, il a mis son pied sur la terre promise, il savait que le Dieu qui me parle là, qui vient me parler, après il s'en va, il doit habiter quelque part. Et il a voulu savoir, et il a su. Et il savait, c'est dans cette foulée-là que Dieu lui a révélé Christ qui allait venir sur terre. Abraham a vu ça avant nous. Et quand Jésus est venu dire aux enfants d'Israël que Abraham a vu mon jour, et là, les gens charmaient, c'était, ils étaient offusqués. C'est pourquoi aujourd'hui, quand le Seigneur vous parle, il y a des gens qui, voilà, ils sont profondément charmés. Ils vont dire, oh Dieu parle, oh Dieu révèle. Quand quelqu'un commence par tenir ses propos-là, vous savez où il en est par rapport à la foi. L'erreur de l'Église, c'est de pouvoir s'apesantir tôt sur l'intellectualisme. Beaucoup d'Églises tombent dans ça. Quelqu'un est pasteur parce qu'il a tel diplôme. Quelqu'un est ceci parce qu'il a tel ceci. Si quelqu'un est professeur d'université, il faut le mettre quelque part dans l'Église. Dans l'Église primitive, vous pouvez être professeur d'université si vous venez là. Si c'est les apôtres, de par la connaissance qu'ils avaient, savaient que vous là, vous êtes diacre, vous allez rester diacre juste à mourir. C'est comme ça. Dans l'Église aujourd'hui là, les gens sont, ils sont complexés. L'œuvre de Dieu, c'est pas de l'intellectualisme, c'est le spirituel. La preuve, regardez l'Europe. Quand ils ont fini par produire des théologiens un peu partout, quel réveil y a-t-il en Europe jusqu'à ce jour? C'est ces gens-là qui vont introduire l'homosexualité dans l'Église, qui vont introduire des désordres parce que tout ce qu'ils diront, c'est d'un point de vue intellectuel. Les grands réveils là n'ont pas été l'œuvre des intellectuels. Retournez à la Bible et lisez l'histoire de l'Église. Vous allez voir, c'est des gens qui aimaient Jésus passionnément. C'est des gens qui étaient remplis de l'Esprit de Christ, qui voulaient à tout prix le salut des âmes. Les grands théologiens que nous avons aujourd'hui, nous avons produit quoi? L'Église en Afrique ne survivrait pas si elle s'appuie trop sur l'intellectualisme. Je ne dis pas de ne pas être formé, mais je vous dis, si vous vous appuyez trop sur l'intellectualisme, vous allez prendre le petit déjeuner avec des sorciers. Les sorciers vont vous donner la Sainte-Seine dans vos églises. Vous ne saurez même pas. Permettons à l'Esprit de Dieu de nous enseigner. Il y a une autre faculté intellectuelle, spirituelle, que le commun des mortels n'a pas. C'est ceux qui sont nés de l'Esprit qui peuvent comprendre ça. C'est pour cela qu'il a dit, quand cet Esprit viendra, vous aurez des songes, vous aurez des visions. Vous allez prophétiser. Pourquoi? C'est le langage de l'Esprit. Frère, ma sœur, revenons à la Bible. L'intellectualisme ne peut pas nous servir dans le royaume. Elle a juste une portion de vérité. Mais la profondeur même de la connaissance dans notre marche avec Christ, c'est quand l'Esprit de Dieu nous instruit et nous montre la voie à suivre.
Chers auditeurs, tout a été dit dans cette émission par rapport à cette chanson « Quand tu l'auras décidé » de la famille Harbour. Une chanson qui n'est pas très connue par les auditeurs et nous avons pris notre plaisir de vous le commenter avec l'aide du Saint-Esprit. Alors on vous laisse encore une fois avec cette chanson et si le Seigneur tardait à revenir, on se reverra la semaine prochaine, le dimanche prochain, même heure pour un autre chant à commenter. Quand tu l'auras décidé de la famille Harbour.
Avec les